RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec Thierry Moreau, avec Benjamin Muller et avec Fred Hermel, avec vous bien sûr au 32-16 ou sur l'application RMC. On vous attend nombreux pour réagir à notre dernier débat, notre dernière question. Les écrans sont-ils un danger pour nos vies sexuelles? Faut-il les bannir de notre chambre à coucher? Dites-nous un petit peu comment ça se passe chez vous. On attend vos confidences. 14h30, ce sera RMC S'engage pour vous. Et Amélie Rosic qui va tenter d'aider Romain qui a subi une arnaque au faux billet de concert. Il a perdu beaucoup d'argent, Romain. On va tenter de l'aider. Puis il y aura les immanquables. Il y aura quoi dans les immanquables, Rémi?
Ah bah, il y aura beaucoup de choses. On va parler de la vente du jour avec la plateforme Salto qui va pas bien du tout. En tout cas, qui répond à une situation difficile. On va parler d'une statue de Victor Hugo dont la couleur ne plaît pas. Je vous expliquerai.
Oui, parce que la statue est noire. Mais elle est patinée.
C'est ça.
Mais enfin, bon, c'est
très patinée.
Oui, bon, c'est vrai que ça a créé une polémique. On en parlera tout à l'heure. Dans les immanquables. On a les polémiques qu'on mérite.
Dis
tout de suite. Voilà. Ce sera dans les immanquables tout à l'heure.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite au chiffre du jour. Un homme sur trois admet avoir connu des problèmes d'érection à cause des écrans. Réseaux sociaux, séries Netflix, films pornographiques, les écrans ont un vrai impact sur notre vie sexuelle et sur nos comportements amoureux, Rémi.
Oui, c'est certain. Et ça, c'est ce que dit une étude britannique parue récemment dans la très sérieuse revue scientifique The Lancet. Pas de doute entre ce rapport. Plus de 50% des couples passent aujourd'hui en moyenne 90 minutes devant un écran avant de se coucher. Et le nombre de rapports sexuels. Non. Avec les tablettes et les écrans, maintenant. C'est les écrans au sens large. Mais il y a 90 minutes devant un écran avant de se coucher, et le nombre de rapports sexuels moyens est passé d'un peu plus de 6 par mois à 5. Et d'après l'étude, il y a un rapport direct, parce que d'après cette même étude, donc un couple sur deux admet que sa vie sexuelle est perturbée par les nouvelles technologies. Il serait même 12% à répondre au téléphone pendant un rapport sexuel. 10% à lire...
Ça dépend qui c'est. Si c'est tes enfants
10%
Imagine.
Tu as ton portable à côté, sur la table de chevet.
T'as ton portable. Tu sais que...
Pas ton portable!
T'as pas ton portable? Tu laisses pas ton portable à l'entrée de ta chambre? Bon, ton portable sonne et tu sais que ton enfant en soirée, il est 3h du matin. Il t'appelle. Tu jettes un œil et t'es obligé de dire: attends deux secondes, je vais quand même voir ce
qu'il y a.
Non, mais ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver, Thierry.
Ça peut arriver également. Merci, 10% admettent que ça peut arriver de lire un SMS pendant les ébats. Et 5% consultent leur page Facebook.
Pendant les ébats.
Ouais.
It's complicated.
Une invasion des écrans qui joue même, tu l'as dit, Estelle, sur les troubles de l'érection chez l'homme. Chez les moins de 35 ans, on ne parle pas de. Parce qu'il peut y avoir des troubles de l'érection arrivés à un certain âge. Non. Chez les moins de 35 ans, la proportion moyenne de victimes de troubles du désir ou de problèmes d'érection, même occasionnel, c'est 33%.
1 sur 3
ça arrive
chez les 25
chez
ans
chez les moins de 35 ans. Ça arrive dans 33% des cas que pour un homme occasionnellement d'avoir elle monte à 55% chez les hommes visionnant quotidiennement des vidéos pornographiques. Contrairement à ce que certains pourraient penser, ça suscite le dire perturbe. 39% de chez ceux qui tous les jours vont sur les réseaux sociaux, et autant chez ceux qui regardent tous les jours des séries.
Oui, donc c'est tous les hommes quoi.
Ça veut vraiment dire qu'il y a une incidence, il y a une incidence des écrans véritablement sur la vie sexuelle.
Alors, les écrans sont-ils un danger pour notre vie sexuelle? On sera avec Catherine Solano dans un instant. On l'adore, sexologue et cofondatrice de Doctical, qui viendra nous donner des petits conseils. Les écrans sont-ils un danger pour notre vie sexuelle, Fred Hermel?
Alors, c'est important d'utiliser le mot les écrans, parce que l'écran, c'est-à-dire regarder quelque chose à la télé, on partageait la même chose. Donc, on pouvait en discuter. Donc, on était dans le... T'es en couple, tu regardes un film le soir avec ta femme ou ton mari, avec qui tu veux, tu commentes le film, t'es dans le couple. Le problème du pluriel... Les écrans, c'est-à-dire que c'est deux vies séparées. Donc, comme chantait le grand Brassens, il faut reconnaître que ça ne facilite pas le contact. Donc, une chanson merveilleuse s'appelle L'emmerdeuse. L'emmerderesse, exactement. C'est vrai, les écrans provoque une distanciation des couples. Quand vous voyez, il y a dans un lit, ben, quelqu'un qui va regarder sa série sur l'iPad et l'autre qui va regarder Twitter sur son téléphone.
C'est ça.
Voilà, l'écran lui-même, non, parce qu'on on partage quelque chose. Les écrans, on se sépare et c'est pas bon pour les relations intimes.
Et d'ailleurs, on le voit dans des couples qui, au départ, regardaient des séries, effectivement, c'est ce que tu dis, ensemble, ouais. Et qui, aujourd'hui, font écran séparé, on
exactement,
va dire.
Oui,
c'est
voilà.
Plus chambre à part, c'est écran séparé. Est-ce que les écrans, c'est un tue-l'amour pour vous, Benjamin Muller ?
Je dirais que dans les couples, non, c'est un faux problème. Et que pour les jeunes, en revanche, oui. Notamment pour les histoires de troubles de l'érection chez les plus jeunes qui effectivement vont être bercés au porno dès l'âge de on pourrait croire que c'est 17 ans, pas du tout, hein, c'est à partir de 10 ans, les chiffres sont phénoménaux.
15 ans, merci de ne pas me dire ça.
Mais eh ben, vous êtes tranquille, il en a déjà vu.
Non, et je veux dire, je lui ai déjà posé la question.
Oui, mais
il est très honnête.
Bien sûr, bon, oui. et ben, tant mieux, il est préservé.
Il ment pas bien.
C'est sûr que l'éducation sexuelle pour énormément d'ados, des garçons, enfin de tous, garçons et filles, mais un garçon en particulier, moi quand j'avais cet âge-là, c'était Canal+, le premier samedi du mois, mes parents n'étaient pas abonnés à Canal, donc il fallait que j'aille chez un copain qui a Canal, attendre que ses parents aient se couchaient.
Ouais, ouais.
C'était galère et du coup, moins de pression.
Mais parce que t'es jeune, parce que nous, non, avec Thierry, on avait le catalogue de la Redoute et je peux te dire
ah, t'es jamais
que
déçu.
Ça, c'était merveilleux.
T'es jamais déçu. Pour les couples.
Et ça, on n'avait pas le problème d'écran. Hein, ça.
Pour les couples, c'est un faux problème parce qu'en vrai, déjà, chacun de son côté, dans ce cas, un couple où chacun lit. Quand on lit un livre, on est chacun de son côté.
C'est,
dans
pas,
son
pareil. C'est pas pareil.
Eh ben si, les amis.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil. La perturbation n'est pas la même.
Et je vais
vous dire... Non, la perturbation n'est pas la même. Là, on parle de série. Tu sais très bien comment ça se produit. Chez chacun, il est devant un écran dans le lit, en train de regarder une série. Tu regardes un épisode. Déjà, c'est au moins trois quarts d'heure. Un deuxième épisode, voire autre chose. Et tu vas en même temps sur les réseaux sociaux. Quand on lit un livre, il est rare quand même, quand on est à deux dans un lit, en train de lire ensemble, de lire pendant une heure et demie sur un écran portable.
Bon, ça, c'est que ça fait longtemps que vous avez quelqu'un.
Oui, il y a un article dans le Figaro aujourd'hui sur ce sujet. Enfin, j'ai lu dans
le Figaro. Beaucoup lu Figaro aujourd'hui.
Non, mais j'ai que les codes du Figaro. Qu'est-ce que vous voulez donc, je lis
mais
Figaro.
Non, mais c'est le meilleur journal français. Donc,
bien sûr,
y a pas
parce que vous êtes ras, c'est incroyable. Pour y acheter la presse le
donc,
matin.
Il y a une jeune fille de 26 ans qui dit, en parlant. 26 ans, donc elle est jeune. Hein, ouais. Je veux dire, ça fait pas 40 ans qu'ils sont ensemble, on peut comprendre qu'on est un peu moins. Elle dit, Oli, il consacre tout son temps à son téléphone, il regarde ses mails, Facebook, envoie des SMS, il est absorbé, je ne le touche plus depuis quelques semaines et il ne remarque rien. J'ai envie de lui dire, mais qui
change le mec, bah oui, évidemment.
Le problème, c'est quand t'as de la fièvre, c'est le fait que tu sois malade ou c'est le thermomètre. Et là, on est en train de se dire, oh là là, il faut qu'il arrête de regarder son téléphone. Pas du tout. En fait, t'es avec un gros goujat, ma belle. Et qu'il l'aime plus, il s'aime plus. Et le problème, c'est pas l'écran. Ah,
ça peut être l'écran. Non, je pense qu'il y a. Alors, c'est les deux, mon capitaine. Hein. Ouais.
Mais Thierry Moreau.
Oui.
Est-ce qu'on a moins envie de faire l'amour quand on a regardé une série, quand on a regardé un écran pendant 90 minutes?
Je suis désolé, moi je consomme beaucoup de télévision, beaucoup de séries.
C'est pour ça que je vous pose
la question.
D'avoir
un problème de ce côté-là. Donc je vois. Non, en fait, il y a quelque chose de très factuel. C'est que le temps qu'on passe désormais sur les réseaux sociaux et sur son téléphone portable, j'exclus le visionnage de séries et de le regarder à la télévision. Mais le fait de passer son temps sur les réseaux sociaux et son téléphone portable, c'est un temps qu'on a pris sur d'autres temps. Oui. D'autres temps qu'avant, on consacrait à autre chose. Alors, ça pouvait être de la culture, pas le travail, parce qu'on prend... Enfin, encore qu'il y a des gens qui consultent leur truc sur leur temps de travail, mais sur le sommeil, et sur la vie à deux. C'est-à-dire qu'il y a forcément une partie du moment où on est à deux, et ce moment qu'on passe sur les réseaux sociaux, il est au détriment de la vie de couple, sexuelle ou pas sexuelle, mais la vie de couple. Et donc, je pense que ça, c'est le domaine-là. J'ai envie de dire de tout un peu. C'est-à-dire que si on consulte raisonnablement les réseaux sociaux, si on regarde raisonnablement des séries avec son compagnon...
Mais est-ce que vous êtes raisonnable?
Ça veut dire pas des heures et des heures et des heures
par jour.
Oui,
mais une fois que vous avez commencé une série, si elle est bien, vous savez très bien ce que c'est. C'est allez, je regarde un petit dernier. Et puis c'est mort.
Oui, mais enfin, il y a un moment, il faut savoir que qu'est-ce qui est le plus important, la personne avec qui on a passé 30 ans ou la série qu'on vient de voir et qui est là depuis 15 jours
sur
Netflix.
Parce que vous êtes raisonnable. Mais ça veut quand même dire, excusez-moi, mais quand vous arrivez en couple et que chacun regarde sa série de son côté, déjà ça veut dire qu'il y a un problème. Là, c'est déjà.
Non, parce que on peut ne pas aimer les mêmes choses. Je suis désolé. Moi, il y a des séries.
Mais avant, on se forçait.
Il y a des séries que je regarde et je sais que mon épouse Fred, ne va pas aimer du tout ce genre de série, donc elle va regarder autre chose.
Avant, tu te serais forcé pour regarder la même chose qu'elle et vous auriez dit tiens alors attends on te regarde cette série cette semaine.
Avant c'était un livre et chacun avait le sien donc c'est le seul objet d'ailleurs avec le téléphone portable le livre qui va dans le lit en fait parce que les autres
il y a d'autres objets
mais après ça dépend de votre sexualité. Alors on sera justement avec Catherine Solano dans un instant, notre sexologue préférée. Frédéric nous appelle de Cherbourg. Bonjour Frédéric.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Et Frédéric, vous faites partie de ceux qui ont une télé dans leur chambre.
Ah.
Mais vous savez que c'est un tue-l'amour, Frédéric.
Eh non, absolument pas.
Ah du tout, moi j'en ai une.
Mais non, parce qu'on a, on adore les, on adore exactement les mêmes séries. Donc en fait, on s'arrange pour faire l'amour que chacun puisse regarder l'écran.
Pardon.
Ah, vous faites les deux en même temps.
Bah, oui, ah, vous faites les deux en même temps.
C'est peut-être la solution.
Bah, c'est pas donc, pratique, dites donc. Avec un seul écran.
Oui.
Attendez, je suis en train de réfléchir.
Bah, réfléchissez, Estelle. Imaginez.
Mais je l'ai, je l'ai.
Ouais, moi aussi. Ouais.
Moi aussi, je l'ai.
Est-ce que vous faites l'amour entre midi et 15h en regardant l'émission?
Ah bah non, 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 parce que je vous écoute. Non,
ah non, oui, non. Ah bah voilà. C'est un tue-l'amour, en fait.
Oui, votre émission est un tue-l'amour, en fait, oui. Ouais, on va dire ça comme ça.
Non, mais Frédéric, mais à quel moment ça vous est venu de faire ça comme ça? Vous dites pas, bah, je pourrais éteindre la télé, quoi, tu vois, et la regarder, elle, plutôt que regarder mon écran.
Eh bien, parce que ça nous donne une lumière bleue, l'écran. Donc, en fait, on se voit, plutôt que d'être dans le noir.
Ah oui, d'accord. Non, et ça tamisée. Vous contente tous les deux?
Voilà, bah oui, oui. Oui, d'accord. Et puis ça dure plus longtemps, parce qu'on est concentré sur l'écran.
Ah oui, d'accord. Oui, bon, c'est... Non, mais c'est...
Ah,
c'est...
Là, ah je comprends la technique.
C'est... Oui, bah, je
ouais, parce que des fois, tu penses à un moteur de voiture, tu sais...
Voilà, donc
oui, c'est sûr que si tu regardes qu'à 2000,
trucs,
c'est,
voilà, c'est.
Enfin, oui, enfin, y a, non, y a
des tu connais les techniques pour, comme pour oui, que les hommes.
Enfin, faut bien choisir votre série. Vous regardez quoi en ce moment, Frédéric?
Ouais, tu penses à autre chose, quoi.
Ça dépend. Non, non, ça dépend. Bah, RMC, je regarde tout le temps RMC. En fait, on regarde tout le temps RMC.
Ah, bah faire l'amour devant l'after, on en parlera avec je dirais à Gilbert Bribois et à Daniel Riolo, je suis sûre que ça leur fera très plaisir. Merci Frédéric en tout cas d'avoir été avec nous. Catherine Solano, notre sexologue préférée et notre invitée bien sûr sur ce débat, cofondatrice de Doctical, plateforme de télésanté. Ça va Catherine?
Très bien, merci Estelle.
Bonjour.
Eh ben, Catherine, bonjour. On se pose cette question, les écrans sont-ils un danger pour notre vie sexuelle? Je suis sûre que oui.
Oui, c'est un danger, mais en même temps, j'ai beaucoup aimé ce que disait Fred, c'est-à-dire que si ça peut aussi être un moment de qualité, que regarder ensemble quelque chose, de discuter, de se sentir proche l'un contre l'autre, un peu comme autrefois on était sur le canapé, si c'est dans le lit, pourquoi pas. Mais par contre, c'est vrai que si ça nous prend beaucoup de temps de vie, parce qu'on sait que, vous savez, les chiffres sont terribles, c'est que l'allongement du durée de vie, ça s'est allongé du temps qu'on passe devant la télé dans toute une vie. Donc, on a gagné, je ne sais pas, 8 ou 9 ans et ça correspond au temps qu'on passe dans toute une vie devant des écrans. Donc, ça fait un peu peur. Du coup, si ça nous prend beaucoup de temps de vie, ben, on passe moins de temps pour l'intimité du couple. Et puis, on a parlé aussi de la pornographie, qui est quelque chose qui est catastrophique. Moi, j'en vois en consultation, on voit les résultats. Avant, je ne posais jamais la question, il y a quelques années. Maintenant, je pose tout le temps la question aux hommes, souvent jeunes, qui ont des problèmes d'érection, des problèmes de désir, des problèmes d'éjaculation. Est-ce que vous regardez de la pornographie? Et une fois sur deux, on me répond « Ah, je crois que c'est ça ». Parce qu'en fait, ils ne sont pas idiots, ils s'en rendent compte quand même, vous voyez ce que je veux dire. Et les autres me disent soit « Non, je ne regarde pas », soit « Oui, je regarde » et ils ne font pas la relation. Mais il y en a pas mal qui se rendent compte qu'effectivement, c'est très toxique pour leur vie sexuelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces hommes-là ne sont pas forcément addicts. Il y en a plein qui me disent « Bon, ben, j'arrête, quoi ». D'accord. J'ai pas envie de gâcher ma vie sexuelle non plus.
Et quand ils arrêtent, ça reprend?
Ah oui, souvent, en quelques semaines, ça revient souvent.
Mais Catherine Solano, est-ce que finalement les écrans, c'est pas aussi une tactique d'évitement bien pratique dans un couple? C'est-à-dire qu'en fait, ça évite de discuter avec l'autre, quoi. De discuter, de s'engueuler, de parler des problèmes, voilà.
Oui, vous avez raison, ça peut être une tactique d'évitement, évidemment, mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas la seule tactique d'évitement. Il y a des personnes qui évitent l'intimité en rentrant très tard du travail tous les soirs, en travaillant beaucoup. Moi, j'ai un patient qui m'a dit « Toute ma vie, je suis rentrée le plus tard possible du travail parce que je n'avais pas envie de voir ma femme, on ne s'entendait pas. » Donc, vous voyez, il n'y a pas... c'est horrible, ils n'avaient pas attendu les écrans, vous voyez. Mais ça peut être le sport, ça peut être les sorties avec les copains, ça peut être une activité. Donc là, je trouve que ce n'est pas spécifique aux écrans. Après, vous avez raison, quand votre compagnon, votre compagne passe tout son temps devant les écrans, il faut peut-être se poser la question, ce n'est pas forcément une addiction aux écrans, c'est peut-être l'envie de ne pas être en couple ou l'envie de vous éviter, c'est clair. Hein.
Benjamin Muller, est-ce que vous avez instauré dans votre vie de couple des règles vis-à-vis des écrans, justement, par exemple, pas dans la chambre, pas entre telle heure et telle heure?
Non, mais je crois qu'on fait un peu de bon sens, enfin en tout cas dans la chambre, là où on a essayé de l'instaurer rapport aux enfants, c'est pendant les repas. Et donc là, on n'est plus sur les questions de vie sexuelle, mais vie affective, vie familiale.
Tu fais pas l'amour pendant les repas, c'est ça?
Non, devant les enfants, non. On a arrêté. Vous êtes dégueu. Non, je disais pendant les repas, au moins à table, aucun écran pour pas être embêté. On sort un tout petit peu du sujet, mais c'est quand même important.
C'est hyper important. Ouais.
Et ce que je voulais dire, c'est que moi, bon, il y a la question du lit. Moi, ce qui me désespère, c'est quand je vais au restaurant et qu'on voit des couples où les deux sont, mais des fois, enfin, c'est fascinant à regarder quand même, sont sur leur téléphone du début à la fin du repas.
De chaque côté. Hein.
De chaque côté, ils ne se restent pas la parole. Ou autre chose, si vous allez au bord de la mer, quoi, sur la plage l'été, où là aussi, vous voyez des couples qui sont là pendant 4 heures sur leur transat. Et qui s'adresse pas la parole. Et enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'on assiste devant nous à la, à la déliquescence du couple. Et effectivement, où là, l'écran pendant le repas au resto, si on est tout le temps, mais enfin, je veux dire, c'est l'enfer. Moi, ça me désespère. Donc là, petite règle, surtout pendant les repas.
Faut instaurer des règles, justement, Catherine Solano, ou pas du tout?
Oui, je pense qu'il faut instaurer des règles si on se rend compte que c'est toxique pour notre couple, mais à une condition quand même, c'est de faire ces règles ensemble. Parce que si vous voulez, votre conjoint, c'est pas votre enfant. Donc si vous lui dites, bon, maintenant, on fait ça, il sera pas forcément d'accord. Donc il faut avoir conscience tous les deux que on est tous un peu fragiles par rapport aux écrans, de toute façon, parce que c'est étudié pour attirer notre attention et pour être addictif. Donc c'est pas parce qu'on est nul, parce qu'on n'est pas malin, parce qu'on est idiot, c'est juste parce que c'est étudié pour manipuler notre cerveau. Donc, il faut trouver de la force pour lutter contre ça. Hein. Et les règles, c'est une solution.
On est avec Sophie qui nous appelle de Rennes. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Je suis obligée de vous poser ma question à chaque fois. Est-ce qu'il fait beau en Bretagne, Sophie?
J'ai un plein soleil, mais il y a un vent de fou.
Ouais, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça chasse les nuages. C'est nickel, Sophie.
Oui.
Et il fait toujours beau en Bretagne, évidemment. Sophie, est-ce que les écrans sont un problème pour votre vie sexuelle ou pas du tout?
Ah non, pas du tout. Il faut mettre What Mill dans la maison, ça ne nous gênera pas. pas du tout.
Mais vous avez la télé dans votre chambre?
Alors, on a, comme depuis 34 ans, une télé dans la chambre.
Ouais.
Après, il y avait un ordinateur fixe, puisque à l'époque, il n'y avait pas les portables. Après, on a eu les portables. Maintenant, on a les téléphones portables, chacun de son côté. Lui, il regarde ses infos, moi je regarde les petits jeux, puis d'un coup on voit le petit regard, tu viens m'embêter, je viens t'embêter, ou même ça se fait automatiquement, que l'on voit la télé, que l'on voit celui qui nous regarde, et nous on fait ce qu'on a à faire, quoi. Que ce soit 8h du matin, ou le soir, enfin n'importe quand, les écrans ne sont pas un problème.
D'accord. Les écrans vous gênent pas du tout?
J'adore Sophie.
Ouais. Non, mais moi aussi, mais c'est étonnant, vous êtes un cas, Sophie, quand même, parce que d'habitude, vous avez des couples qui regardent les écrans et puis qui finalement ne se soucient pas du tout de l'autre, et vous, finalement, ça vous gêne pas. C'est comme un livre, quoi, que vous pourriez reposer.
Ben voilà, mais c'est comme quand vous êtes dans le canapé, votre conjoint il a son portable, et puis je sais pas, peut-être que je fais la vaisselle ou je suis en train de ranger, puis d'un coup, tiens, j'ai une idée dans la tête, mais vas-y, chérie, regarde ton portable, et puis pareil pour lui, je veux dire, il n'y a pas de. Puis bon, au bout de 34 ans, on se connaît, quoi, donc des choses, un petit regard, un petit machin, le portable de foot, à Lourdes, et puis voilà, quoi.
Et vous regardez des séries ensemble ou chacun de votre côté?
Oh, ben disons que Jean-Marie, c'est une marmotte. Lui, comme c'est très tôt le matin, il dort dans la foulée. Moi, je regarde, mais ça me berce plutôt qu'autre chose. Ça me berce.
D'accord, et finalement, ça met absolument pas en danger votre vie sexuelle qui a l'air fortement épanouie, donc c'est formidable.
Je le souhaite à tout le monde d'ailleurs. Hein.
Mais tout à fait. Mais on est d'accord, Sophie. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelé au 32-16. Catherine Solano, ça déjoue un peu tout ce qu'on dit depuis le début, finalement, le témoignage de Sophie.
Oui, mais heureusement qu'il y a des personnes comme ça. Disons qu'on n'a pas tous un tempérament à être aussi addict que les autres. Donc si c'est deux personnes en couple qui ne sont pas très addictes à leurs écrans, ils les laissent facilement en plein milieu. C'est comme quand vous lisez un roman policier, il y a des gens, ça les ennuie, et d'autres qui sont complètement addicts, qui ne veulent pas arrêter. C'est un peu ça. Ouais. Et je peux vous dire, je suis en Bretagne aussi, il ne fait pas très beau où je suis. Il y a beaucoup de vent aussi, il pleut un peu.
Ça m'étonne. Ça m'étonne beaucoup, Catherine.
J'ai une question pour le docteur Solano d'un point de vue purement médical, parce qu'on sait par exemple que la lumière bleue.
Il va commencer par j'ai un ami.
La lumière bleue des écrans, on sait que c'est très mauvais pour le sommeil.
Oui.
Donc, est-ce qu'il est prouvé que c'est mauvais pour l'activité sexuelle? Pas à cause de ce que vous avez expliqué tout à l'heure, le fait qu'on est happé par une série, etc. Mais est-ce que cette lumière est mauvaise pour le corps au niveau sexuel?
C'est-à-dire que non, c'est mauvais pour le sommeil, et le manque de sommeil, c'est mauvais pour l'activité sexuelle. Pour les hommes comme pour les femmes, pendant la nuit, vous avez des érections automatiques.
Et je vous confirme.
Les femmes aussi ont un gonflement, mais comme ça à l'intérieur, ça ne se voit pas. Et si vous n'avez pas suffisamment d'érections la nuit parce que vous dormez moins, vos érections elles seront moins bonnes par la suite. Et puis, vous serez plus fatigué, donc vous aurez moins de désir. Donc, le manque de sommeil, c'est une des causes des troubles sexuels, ça c'est clair.
Je peux vous dire que Fred Hermel, il va couper son portable à 19h. Ça va être vite vu. Est-ce que les écrans peuvent aussi pimenter la vie sexuelle, Catherine Solano?
Bah, écoutez, quand on regarde des séries ensemble, il y a les bons côtés, c'est le fait que quand on regarde quelque chose ensemble, une série, un film, on a les mêmes émotions au même moment, donc ça peut créer une intimité. Par contre, si c'est pour regarder de la pornographie, on en a déjà parlé, je vais pas recommencer, mais
oui, mais si on le regarde ensemble, si vous le regardez ensemble en couple.
Ouais, mais généralement, c'est pas très bon parce que si vous voulez, le cerveau s'habitue à regarder des images qui sont étudiées pour stimuler votre excitation et après, il devient moins sensible aux excitations naturelles, c'est-à-dire de voir votre partenaire, etc. Et moi, je vois, j'ai une dame qui m'a écrit cette semaine, elle me dit, par rapport à son copain qui regarde beaucoup de X, j'ai trouvé ça vraiment malheureux, elle me dit, bonjour, je lis pour la deuxième fois votre livre, Les trois cerveaux sexuels, et j'ai reconnu mon copain et le genre de sexualité qu'il aime dans le chapitre sur le X et ses effets. Le problème, c'est que je n'apprécie pas d'être constamment obligée de jouer à l'actrice porno lors de nos relations. J'aimerais l'amener à une relation plus sensuelle, mais mon copain perd son érection si j'essaye, car il n'est stimulé que par le hard, et elle dit au secours. Vous voyez ?
Oui, on la comprend, il faut qu'elle le quitte. Oui, ça c'est sûr, c'est quand même... Oui,
ou qu'il arrête de regarder du porno.
Oui, quand t'es addict comme ça, manifestement...
S'ils sont amoureux, par ailleurs...
Souvent, lui, un homme comme ça, souvent, il a l'impression d'avoir une sexualité normale parce qu'il regarde du porno, il croit que c'est ça, la vie sexuelle. Il ne se rend pas compte qu'il passe à côté, en fait.
Et sur les jeunes, je pense que c'est un des grands dangers. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes mettent la norme dans ce qu'ils voient sur certains films porno, c'est dramatique.
Avec beaucoup de violence. Et il y a un gros problème de violence.
Énorme problème de violence. Il y a une étude en Angleterre qui montrait que plus les femmes étaient jeunes, plus elles avaient subi de violences sexuelles dans les relations sexuelles consenties avec leur partenaire. De se faire mordre, arracher les cheveux, gifler, étrangler, des trucs comme ça. Donc,
sans que les hommes en question se rendent compte que c'est de la violence, en fait. Parce qu'ils ne font qu'en reproduire ce qu'ils voient dans les films.
Non, mais c'est vrai,
pour beaucoup de jeunes, il y a eu beaucoup d'articles là-dessus. C'est vrai, mais le docteur Solano sera d'accord avec moi. C'est-à-dire qu'ils ont...
Un homme de 15 ans, il se doute bien quand même que d'arracher les cheveux d'une femme
sexuelle qu'ils connaissent, c'est à travers le porno. Et ils reproduisent ces images-là. Et ils pensent que la sexualité, c'est ça.
Que c'est excitant pour une femme, en fait. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il y a des garçons, malheureusement, moi je vois ça en consultation de plus en plus souvent, qui violent une fille et qui ne se rendent même pas compte. Ils ont l'impression... Moi, j'ai une patiente, elle a été violée sauvagement et deux jours après, le garçon lui a dit « Excuse-moi, j'y étais un peu fort ». Il ne se rend même pas compte que... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est atroce, quoi.
Alors là, c'est les conséquences, évidemment, des écrans et notamment des films porno. Alors au départ, on parlait des écrans,
c'est
mais...
C'est plus des contenus, voilà.
Je pensais pas
et
non plus...
Et de l'éducation aussi, là, pour le viol. À un moment, les écrans, c'est à bon dos.
Ouais, c'est ça.
Les enfants petits, ils savent déjà ce qu'on peut faire et pas faire pour plus tard.
Je suis d'accord avec toi. Pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient acheter une télé pour la Coupe du Monde et l'installer dans leur chambre, c'est une mauvaise idée, Catherine Solano, ou pas ?
Alors ça, c'est à eux de réfléchir ensemble, parce que s'ils regardent un match et que c'est surexcitant, qu'ils sont contents et qu'ils fêtent une victoire en faisant l'amour, pourquoi pas ? Vous voyez, ça dépend de l'utilisation.
S'il y a des fêtes,
C'est pour se réconcilier. Voilà, on fait l'amour dans la défaite.
Ouais. Ah oui, c'est ça. on se réconcilie, exactement. On peut se réconcilier. Mais si par contre, ils font plus que ça pendant plusieurs semaines, que de regarder leur écran et les films, c'est peut-être dommage pour leur couple.
Catherine Solano, dernière question. À quel moment on s'inquiète quand on voit son compagnon regarder de plus en plus souvent son téléphone quand il est au lit ?
On s'inquiète si on sent qu'on n'a plus de rapprochement physique, surtout, ou plus d'intimité, même en parole, en gestes, etc. Il faut mettre les choses au point très vite, et parce que ça peut être simplement une addiction, auquel cas c'est pas bien grave, il suffit de tirer la sonnette d'alarme. Mais comme vous en parliez tout à l'heure, si jamais c'est pour éviter l'autre parce que ça va pas dans le couple, peut-être qu'il faut réagir, mais c'est peut-être mauvais signe aussi, quoi. Ça dépend.
Benjamin.
Catherine Solano, j'ai lu que dans la nouvelle génération, on faisait moins l'amour en termes de quantité que les générations d'avant, etc. Mais qu'il y avait plutôt une quête de qualité plus que de quantité. Je veux dire que c'était pas un problème, on faisait moins l'amour, mais que ce qu'on voulait, c'était faire l'amour dans des conditions un petit peu plus... Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ? Parce que moi, l'image que j'en avais plus tôt, c'était qu'avec Tinder et compagnie, on faisait beaucoup plus et c'était pas toujours génial. Est-ce que vous confirmez ça, qu'il y a une quête de romantisme ?
Je dirais que c'est plutôt qu'il y a deux types de populations. Il y a des personnes, c'est un petit peu comme pour l'alimentation, si vous voulez. Il y a plus en plus d'obésité et en même temps, il y a de plus en plus de recherches culinaires vers des bonnes choses, des bons aliments, etc. Du coup, c'est pas les mêmes personnes tout à fait. Je pense que pour la sexualité, c'est pareil. On a accès à plein d'infos, on peut gagner en sensualité, etc. Mais si on est imbibé par la pornographie, ça va pas être ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépend des personnes.
Merci beaucoup Catherine Solano en tout cas d'avoir
été
avec nous.
Estelle, je vous fais une grosse bise depuis la Bretagne.
Mais oui, bon voyage en Bretagne. Quelle chance vous avez Catherine. Et merci d'avoir été avec nous.
Vous avez fait revenir le soleil, il y a un grand soleil. Voilà.
Mais évidemment, mais vous savez, en Bretagne, il y a du soleil 5 fois dans la journée, Catherine.
Il faut juste être là. Il revient parce qu'il y a beaucoup de vent.
Il faut être là au bon moment. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Les écrans sont-ils un danger pour notre vie sexuelle ?
C'est Louis qui l'emporte. Alors, je ne sais pas si c'est un avis ou un ressenti ou un témoignage, mais c'est le oui qui l'emporte à 56% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Allez, dans un instant, RMC s'engage pour vous avec Amélie Rosic qui va tenter d'aider Romain. Romain qui a subi une arnaque aux phobies de concert. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h23 sur RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, évidemment, et dans un instant, même tout de suite, Amélie Rosic, RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et Amélie, aujourd'hui, vous avez été alertée par un auditeur romain concernant une arnaque aux faux billets de concert. Il vous a contacté, bien sûr, sur l'adresse rmcpourvous@rmc.fr.
Absolument, je vous posais la question hier, le Hellfest, hein, ça vous parle, c'est un énorme festival de musique métal, heavy metal, hard rock, tout ça, ça réunit 420 000 personnes quand même l'été dernier. 420 000, ouais.
C'est beaucoup.
L'été dernier à Clisson, en Loire-Atlantique, c'est donc le plus gros festival de France, l'un des plus grands d'Europe. À chaque édition, les billets se vendent en quelques heures. Là, pour l'édition prochaine, ça s'est vendu tout hein, en 2 heures. Résultat, sur le marché de l'occasion, ça se revend très très bien. Et donc, c'est un terrain de jeu idéal pour les arnaques en tout genre sur Internet. Romain en a fait les frais en début d'année. Il cherche 2 places. Il va donc sur le site de revente officielle Ticketswap. C'est d'ailleurs le site qui est conseillé hein, par le festival Hellfest. Une vendeuse lui propose 2 billets au prix d'achat, soit 600 euros, parce que c'est quand même près de 300 euros le billet pour le Hellfest. Et la transaction semble totalement sécurisée. Pourtant,
je suis passé par le site sécurisé de la banque, le SecurePass de la caisse d'épargne. Et au retour sur le site vendeur, donc le site, en fait, un site miroir qui ressemble en tout point au vrai site, j'avais un message avec les logos de la banque et tout team. Ça mettait qu'il y avait une erreur dans la transaction, ce qui peut arriver sur d'autres transactions, sur d'autres sites plus connus. Donc, je ne me suis pas inquiété de ça. J'ai essayé plusieurs fois et en fait, les paiements étaient validés en réalité.
Et c'est débité à chaque fois.
Plusieurs fois. Oh Romain, il va tenter à 4 reprises d'acheter ses billets. Donc, 4 fois 600 euros, 2400 euros au total et les billets, il ne les verra jamais.
Oh. Aïe. Et comment une arnaque comme ça est possible, Amélie ?
Alors, c'est ce que l'on appelle, il en a parlé d'ailleurs Romain, un site miroir. C'est un peu comme le jeu des 7 différences. Vous vous souvenez, quand on était petit, 2 images identiques ou presque, il faut chercher l'erreur. C'est à peu près pareil. Le faux site, en fait, il ressemble à s'y méprendre au vrai site, à une différence près. Le nom de domaine, au lieu que ce soit ticketswap.fr ou .com, c'est ticketswap.vip. Honnêtement, il faut avoir l'œil, parce que sinon, les images sont exactement...
C'est la seule différence.
C'est la seule différence.
Ah ouais, c'est-à-dire que quand tu vas sur Google, il a tapé ticketswap et il est tombé sur celui-là. Et
il est tombé sur ce site-là.
Aïe.
Exactement. Et cette arnaque, elle est très connue, en fait, dès 2020. Le festival, le Hellfest, hein, comme le site de revente ticketswap, alerte leurs clients sur les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on a fait, c'est contacter, évidemment, ticketswap. Il nous assure avoir pris des mesures pour faire cesser ces activités frauduleuses, mesures insuffisantes, visiblement, parce que c'est en 2020 et les arnaques continue. Et pour l'édition, en tout cas 2023, le Hellfest a changé de partenaire. Il ne travaille plus avec Ticketswap, mais désormais avec Relax Ticket. On nous dit au Hellfest que ça n'a rien à voir avec les arnaques.
D'accord.
Bon, je les juge.
Alors, est-ce que Romain a pu récupérer ses 2400 euros ?
Ça a été extrêmement compliqué. On a d'abord contacté le Hellfest qui, lui, nous a assuré, communiqué chaque année auprès du public en disant « faites attention ». Donc, il nous dit qu'il sensibilise, qu'il signale aux autorités à chaque fois qu'il voit un faux site pour le faire fermer, mais que certains utilisateurs tombent malheureusement dans le panneau. Le Hellfest, évidemment, il ne peut pas être tenu responsable.
Non,
des arnaques. Donc, pas de dédommagement possible de ce côté-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est de contacter la banque de Romain. C'est la caisse d'épargne. Et Romain, il y est client depuis 26 ans. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'il pouvait faire un geste commercial. Dans un premier temps, la banque a totalement refusé tout geste commercial, ce qui se dit... eux aussi qu'ils ne sont pas responsables, et même pire que comme Romain a validé les opérations avec le SecuriPass, vous savez quand
c'est
on vous demande
ouvrir votre application, c'est son code,
et voilà, et ben du coup qu'il est entièrement responsable. Bon, évidemment vous nous connaissez, on a un tout petit peu insisté et on a quand même obtenu un geste commercial de 500 euros, ce qui peut paraître peu, mais c'est quand même quasiment un quart de la somme qui a été dérobée à Romain. Romain qui évidemment par ailleurs a porté plainte contre X pour escroquerie, avec le nom de la vendeuse sur Facebook, qui est probablement un faux nom,
bah, évidemment.
Donc probablement l'enquête n'aboutira jamais, mais au moins il a récupéré 500 euros.
Enfin, il a quand même perdu 1900 euros et il n'ira pas au Hellfest.
Ah non, il n'ira pas au Hellfest, et en plus le pauvre, il nous a raconté, il voulait y aller pour faire plaisir à un copain, donc il voulait acheter une place pour un copain, et du coup il y a d'autres amis à lui qui ont réussi à avoir des places. Ils étaient tellement dégoûtés après cette arnaque qu'ils ont revendu leur place, ceux qui en avaient.
Mais sur des vrais
ils
sites.
Sont pas allés sur des vrais sites et ils sont pas allés au Hellfest.
Ah oui, ouais, donc c'est vraiment la, là, ouais. c'est la galère, quoi.
C'est la galère. C'était dur.
Ouais. On parle de quoi demain, Amélie?
La dépakine, tout autre sujet, ça vous parle ou pas?
Ah bah
la dépakine,
oui,
voilà, c'était le médicament anti-épileptique qui a été pris par des milliers de femmes enceintes sans savoir que c'était très dangereux pour leur fœtus, qu'il y avait des malformations. Et bien, normalement, ils sont censés être indemnisés. Évidemment.
Bien sûr, toujours rien.
Et ben voilà.
On en parle demain. Merci beaucoup, Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous tous les jours vers 14h20 dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On parlera notamment de la polémique autour de la statue de Victor Hugo qui a changé de couleur. Voilà, et ça ne plaît pas à tout le monde, Rémi. Et puis, on a le nom de la marraine du prochain, de la prochaine édition du sommet de la francophonie.
Et là non plus, ça ne plaît pas à tout le monde.
Non, je crois que ça ne plaira pas du tout à Fred Hermel.
Ah,
et puis... là, ah, vous savez qui c'est. Et puis, puis on parlera de l'enquête du jour sur l'ex-épouse d'Éric Ciotti. A tout de suite sur RMC Story.
RMC, Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi. On est toujours ensemble sur RMC Story avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Benjamin Muller et Fred Hermel. Et on va tout de suite s'intéresser aux informations qu'il ne fallait surtout pas manquer aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on commence, Rémi, avec la statue du jour.
Oui, polémique autour de la statue de Victor Hugo, œuvre du sculpteur sénégalais Ousmane Sow, statue élevée dans la ville natale de l'écrivain à Besançon. En cause, la rénovation de la statue qui fait désormais apparaître le visage de Victor Hugo comme très brun, certains diront même noir. Polémique immédiate de certains accusant la mairie écologiste de wokisme, de revisiter l'histoire. La statue a même été dégradée par des inconnus, recouverte d'une fine couche de peinture blanche. Tempête dans un verre d'eau, d'après la ville de Besançon, qui déplore des réactions teintées de racisme, alors même que le travail de rénovation de l'œuvre n'est pas terminé et que la fonderie en charge de ce chantier n'a pas terminé de travailler la patine du visage.
Oui, j'ai été voir certains commentaires sur cette statue, ce n'est pas possible. Effectivement. Non mais ça vous gêne, vous, Thierry Moreau, cette statue qui...
Non, ce qui me gêne, c'est la polémique. Parce qu'en fait, quand on voit la statue en 2002, lorsqu'elle est inaugurée, d'ailleurs, il y a l'image derrière vous, il y a une patine qui, globalement, recouvre l'ensemble de la statue.
Oui, au départ, tout est noir, en fait.
Alors, il est un petit peu... Il a la peau un petit peu bronzée, très clairement, c'est clair, mais c'est pas choquant du tout, et c'est plutôt
une
belle
bronze,
patine
quoi,
d'ensemble en bronze, absolument. Le problème, c'est que là, il y a eu une restauration qui n'a pas été faite pendant 20 ans, alors que normalement, il faut faire la restauration tous les 10 ans. Et donc, la restauration est en cours. Et c'est vrai que là, pour le coup, la statue telle qu'elle est présentée là aujourd'hui, elle est bizarre. Elle ne correspond pas surtout.
Oui,
et la veuve d'Ousmane Sow s'est exprimée là-dessus. Elle ne correspond pas du tout à l'œuvre telle qu'elle était faite au départ.
C'est
donc, c'est une. Évidemment.
Qui a fait ça, en fait, c'est
une
ça.
Tempête
dans
un verre d'eau.
Encore une fois, la fonderie, au début, la veuve d'Ousmane Sow, effectivement, s'est dit c'est absolument pas, ça ne correspond pas à ce que voulait faire mon mari.
Ben non.
Son mari était sénégalais, donc il n'a pas voulu faire un Victor Hugo noir. C'est ce qu'elle explique. Et après, il y a la municipalité qui a réagi, qui a dit attention, c'est du bronze, donc il va y avoir de la patine.
C'est ça.
La couleur actuelle qui peut être un peu déstabilisante n'est pas la couleur définitive.
Oui, ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, au départ, tout était noir, le costume, etc. Ouais. Parce qu'effectivement, le bronze était patiné. Et là, si vous regardez la nouvelle statue sur RMC Story, vous voyez quand même que la chemise est blanche. Donc en fait,
mais quand on refait une patine,
la barbe et les cheveux sont blancs.
Mais c'est normal. Quand on refait une patine, on met des premières couches, il y a des couleurs qui correspondent à peu près à l'objet. objet de départ. Et ensuite, il y a une panne qui vient recouvrir le tout et qui uniformise et qui donne le côté bronze global avec des petites nuances.
Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a eu aucune volonté ni de la part de la mairie, ni de la part de la
fonderie
de présenter un Victor Hugo noir et que ça va se patiner. Encore une fois, c'est le principe du bronze.
Oui, mais il y a un problème.
Et que, non, mais ce sont les réactions immédiates qui sont dénoncées d'accusations de wokisme, de revisitation de l'histoire.
Alors, au-delà de ça, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une veuve qui s'est exprimée, il y a des enfants qui sont les ayants droit et qui ont un droit de regard sur le travail de leur père, sur ce qui est fait avec les œuvres de leur père. Il y a ce qu'on appelle le respect de l'œuvre de M. Sceaux. Et là, à aucun moment, la mairie n'a contacté les ayants droit, les héritiers de l'artiste. À aucun moment, la veuve de l'artiste n'a été consultée pour parler avec elle de ce qui allait être fait de l'œuvre originale de son
mari.
Au départ,
cette statue, elle devait juste être nettoyée, en fait, c'est tout. Oui. Et là, tout d'un coup, c'est une autre statue.
C'est pas si simple que ça. C'est pas juste on nettoie.
La patine, c'est
on rajoute quelque chose. On ne fait pas que nettoyer.
Et
donc, c'est justement le rajout. C'est justement le rajout qui pose problème.
Le scandale, c'est que les héritiers de cet artiste n'ont pas eu de droit de regard.
Est-ce qu'on va demander aux héritiers de le nôtre quand on va toucher au jardin de Versailles? Enfin, je sais pas.
Mais ça n'a rien à voir.
Mais à partir du moment où l'artiste a livré cette statue à la ville de Besançon, c'est la ville de Besançon qui décide comment elle doit être rénovée.
Ah, bah, sûr que non.
Elle doit être conforme à ce qu'elle était au départ.
Elle est comme elle est au départ.
On va mettre des moustaches à la Joconde.
Mais non, elle est comme elle était au départ. Elle n'est pas du tout comme elle était au départ.
Enfin, mais Rémi, mais achetez-vous des lunettes. Enfin, vous voyez bien.
Elle ne va pas rester telle qu'elle est à l'heure actuelle. On travaille sur du bronze. Ça va se patiner.
Mais d'accord, mais enfin pourquoi ? Non, mais excusez-moi. Non, mais pourquoi ?
Moi, c'est pas moi qui dis ça, c'est la fonderie.
Excusez-moi, mais la chemise est blanche. Ils auraient pu faire la couleur du visage de Victor Hugo. Non, mais la même couleur que son visage. J'étais obligée de faire une couleur noire.
Il y a une chose que vous ne comprenez pas, c'est que dans la statue originale, la chemise est aussi un peu plus claire.
Mais oui.
Simplement.
Là, elle n'est pas un peu plus claire, mais enfin, excusez-moi.
Sur la statue telle qu'elle est.
Ça va du blanc au noir.
Oui, mais sur la statue telle qu'elle est actuellement, il y a une couche qui va revenir dessus et qui va uniformiser l'ensemble. Et là, pour le coup, on aura une patine bronze sur l'ensemble de l'œuvre. Mais je suis d'accord
avec Fred,
on aurait pu juste faire ça en accord avec les ayants droit.
Ils avaient étalonné comme il faut. Bon,
moi, j'aime bien. Je trouve ça plutôt réussi.
Oui, moi aussi. C'est inattendu.
C'est surprenant.
Oui, c'est un parti pris.
Dénaturons le travail des artistes.
Je trouve ça très joli. Non, mais juste, si dès qu'on veut donner un petit coup de pinceau sur la moindre statue dans ce pays, on va voir les ayants droit pour demander est-ce que vous êtes d'accord.
Bah oui, c'est normal.
Bah dis donc, on en arrête
plus. On est ayants droit, oui, bien sûr.
Bon, éventuellement, d'accord. Mais juste, accuser la mairie. Par ailleurs, il se trouve que je connais bien la ville de Besançon, qui est par ailleurs accusée de plein de trucs, etc. Mais deux wokistes sur ce coup-là, on pourrait imaginer qu'ils se disent dans le cabinet du maire, eh les gars, on va faire croire que Victor Hugo était noir. Vous pensez que ça va passer? Ouais, super idée. Et comme ça, on va mettre des noirs
mais
partout.
Mais tu sais pourquoi il y a des dégradations? Parce qu'il y a des gens, les antiracistes, qui estiment qu'on a fait un blackface, c'est-à-dire que c'est une insulte au peuple noir.
Je pense qu'on pète tous
un câble. Pas un peu loin. Non, mais je demande.
Non, mais les insultes viennent de là. Hein.
Oui.
Je pense qu'on devient fou. En fait, la civilisation est en train de doucement mais sûrement mourir. C'est illustré là.
Ça, on est d'accord.
Tout le monde devient fou, en fait.
Ça, on est d'accord.
En revanche, qu'il y a une faute de goût, oui.
Notre civilisation est en train de s'écrouler, ça y est.
Et que Madame Sceaux ait son mot à dire. Mais là, c'est quand même, ça fait peur. Par ailleurs, Besançon est une très belle ville que je vous incite à visiter.
Ça n'a rien à voir avec cette
rénovation. Oui, mais c'est.
Enfin, ils ont raté cette rénovation. On peut le dire.
Voilà, ils ont raté ça, mais ils ont réussi d'autres choses.
Et la prochaine fois, ils demanderont l'avis des ayants droit de l'artiste.
Passons à la vente du jour.
Salto, plateforme de streaming 100% française censée concurrencer notamment le géant américain Netflix, va-t-elle bientôt disparaître? Seulement deux ans après son lancement, Seulement deux ans après son lancement, TF1 et M6, co-actionnaires avec France Télévisions, ont annoncé leur intention de se retirer du projet. Alors là, ce que je préfère, c'est ça. C'est la position de la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui veut tout de même croire en l'avenir de la plateforme qui compte 800 000 abonnés. Elle dit que franchement, en deux ans, c'est pas mal, mais elle laisse entendre aussi, et dans le même temps, que France Télévisions pourra également se retirer.
Bah, vous avez appelé ça la vente du jour, mais qui va acheter?
Alors, il y a des rumeurs qui disent que Canal+ pourrait être intéressé.
Racheter le catalogue, c'est-à-dire pas très cher. En fait, moi j'ai toujours dit que cette histoire de Salto était une erreur, puisque dès le début, ils se sont positionnés. Il faut rappeler que les acteurs, au départ, c'était TF1, M6 et le service public, qui se mettaient ensemble pour abonder et verser 45 millions d'euros chacun. Donc, en tout, ça faisait une certaine somme. Pour concurrencer des plateformes, c'était le communiqué de départ, Netflix qui met 7 milliards d'euros par an.
Ils n'y croyaient pas eux-mêmes, enfin, écoutez.
Ah non, mais je pense qu'ils n'y croyaient pas eux-mêmes. Mais simplement, c'était une manière d'unir leurs forces, de croiser leur catalogue et d'avoir quelque chose qui... La vraie bonne idée aurait été de faire une plateforme européenne, parce que ça a été ça, projet. Bah oui. Une plateforme des télépubliques européennes.
On n'a pas envie de regarder des programmes d'autres...
Si, parce qu'il y a des séries anglaises, des séries danoises qui se retrouvent aujourd'hui.
Les pays nordiques, qui sont aujourd'hui
rachetés par Netflix.
Exactement.
Voilà. Donc, oui. il faut le savoir. Alors, donc, une vraie plateforme européenne aurait eu un sens, cette plateforme-là n'a aucun sens. Et alors pourquoi ils sont à 800 000 ? Parce qu'il faut savoir, les salariés de chacune des sociétés étaient abonnés gratuitement. Ah. Donc évidemment, ça gonfle un peu les chiffres.
Parce que qui paye pour Salto ?
Il y a des gens qui payent pour Salto, parce que de temps en temps, il y a une ou deux séries un peu originales, mais il y a très peu de gens.
Le truc, c'est d'aller voir L'amour est dans le pré une semaine avant. Ça, c'est bien, mais c'est le seul truc.
Alors voilà, il y a quelques petits contenus exclusifs, quelques séries, mais enfin, les fonds de catalogue sont en revanche assez tristes.
Je vais me permettre de recommander quelque chose pour les gens qui veulent des productions françaises anciennes.
Vous êtes abonné à Salto ?
Non, à Lina. Ça coûte 2 euros sur Amazon et vous avez accès à tout. Je suis en train de me refaire l'intégrale des Brigades du Tigre et c'est génial. Non mais vraiment, il y a des documentaires.
Ah ouais, genre Thierry Lafond et tout.
Mais il y a tout.
Lina a créé une plateforme chez...
Et c'est même pas 2 euros par mois d'abonnement. C'est fabuleux.
Et votre vie sexuelle reste quand même fournie, vous disiez.
Les Brigades du Tigre, il n'y a rien de mieux.
J'étais sûr. Chérie, on va regarder les Brigades du Tigre ensemble.
L'homme du Picardie, tu sais, l'homme du Picardie, c'est génial.
Non, mais ne plaisantez pas.
Il y a les
Rois
Maudits ensuite. Oh là là, super.
Ne plaisantez pas. J'ai une vision d'adulte maintenant des Brigades du Tigre. Déjà, c'est super bien fait au niveau de l'histoire, etc. Mais je n'avais pas compris quand j'étais jeune que le commissaire Valentin est plutôt chaud lapin dans les Brigades du Tigre.
Et donc, ça t'excite.
Elle est froufrou tout ça un peu, le Brigade du Tigre.
Ça n'a pas vieilli.
Les voitures à traction.
Ah non, ça n'a pas vieilli.
Oh si. L'image est un peu moins nette. Oui. Hein.
Non, l'image n'est pas bonne, mais franchement, les histoires, la dramaturgie, et puis surtout, le contexte historique expliqué au début de chaque épisode, c'est vraiment bien.
Oui, d'accord, oui. Benjamin Muller, vous Salto ?
Je dois dire que non, je ne suis pas abonné.
Bravo, vous êtes à France Télé.
Bah oui, c'est ça.
Oh, pas gratos. Le mauvais élève.
Pas abonné gratos.
Mais c'est vrai que ça partait quand même compliqué, cette histoire, entre Prime Video, Disney, parce qu'on parle de Netflix, mais en fait, Netflix, entre Disney, Prime,
My Canal,
qui est quand même, pour le coup. Alors, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que Canal, ils réussissent quand même à nous fournir, je trouve, un catalogue plutôt sympa, à avoir des créations originales, etc. Et donc, quand on parle de Salto, il y a tout le temps la petite blague de dire, oui, mais nous, les Français, on est morts, etc. Mais en fait, d'une, je comprends pas. Quand on voit Canal, il y a quand même un modèle qui est plutôt ambitieux. Et deux, au niveau européen, effectivement, contrairement à ce que vous disiez, la production européenne, elle est mouse. Hein. Entre tous les pays, toutes les séries nordiques, les séries espagnoles quand même, où il y a eu d'une période sur Netflix,
il y avait plus. Papel.
Mais et après il y avait des dérivés, ils faisaient avec leur algorithme, en gros ils se disaient il faut des séries espagnoles.
Excusez-moi, mais entre tout ce qu'on a déjà, je veux dire, on a assez de séries. Alors, on va pas en plus se taper des séries.
Mais c'est comme pour Google, c'est-à-dire on se dit il y a déjà Google qui marche bien, il n'y a pas besoin de créer un moteur de recherche européen. Bah si, moi je pense qu'il y a besoin de créer un moteur de recherche européen pour aller contre.
Mais c'est pareil. C'est la même chose aujourd'hui.
Mais du coup on se fait avoir.
Tu as 4-5 plateformes et encore je pense qu'elles ne vont pas toutes survivre parce qu'il y aura des rapprochements dans les années à venir parce que tout le monde ne tiendra pas sur ce marché-là. Parce qu'à un moment, ça a beau ne pas être cher, 7 euros plus 3 euros plus 4 euros plus 5 euros, ça fait beaucoup. Ouais. Et donc, c'est les petites plateformes morflent et ensuite les grosses plateformes vont se rapprocher.
Est-ce que Netflix, tu dirais, est menacé par Prime et Disney qui arrivent à fond ?
Non. Non.
Bon. Okay. Passons au choix du jour. J'ai perdu la tête.
Celle qu'on entend, c'est Iseult. Emmanuel Macron a annoncé que la chanteuse serait la marraine de la prochaine édition du Sommet de la Francophonie qui se tiendra en France en 2024. Une décision vivement critiquée par certains, alors que l'artiste, dont les parents sont d'origine camerounaise, a quitté la France en 2013 pour vivre en Belgique. À l'époque, dans une interview accordée au journal britannique The Guardian, elle expliquait se sentir blâmée en France par ce qu'elle était elle-même et d'estimer préférer vivre à Bruxelles où les habitants accueillent la diversité et assument leur passé colonial, ce qui est encore tellement tabou en France.
Je crois savoir, Frédéric Hermel, que ça ne vous plaît pas du tout, ce choix.
Mais Serge, je ne comprends pas comment le président de la République a pu choisir une telle ambassadrice. Quelqu'un qui crache sur la France, représenter l'âme française, qui est la langue française, la francophonie dans le monde, c'est beaucoup, beaucoup d'argent à la francophonie. Et c'est très important, hein, parce que c'est notre identité.
On parle
qui
français
est...
en Belgique aussi.
Bien sûr, oui. Mais la Belgique, c'était surtout évadé fiscal, hein, parce que les, vous savez, ah oui. les riches français, ils vont en Belgique.
C'est une bonne interprétation.
Oui, c'est ça. Bah,
elle,
non,
bah, mais quand, elle dit quand, qu'elle aime la Belgique.
Quand, bon. Excusez-moi, quand sur ce plateau, on dit que des grosses fortunes françaises vont en Belgique, et notamment celle du Nord, pour payer moins d'impôts.
Non, mais ça, c'est une évidence. On parle d'Isolt.
Mais comme par hasard, je pense
pas qu'elle soit millionnaire.
Depuis qu'elle gagne de l'argent, elle est en Belgique. Mais moi, je ne comprends pas que quelqu'un. Elle a dit, pour moi, elle dit une chose qui était terrible.
Pas Mick Jagger, Isolt. Je pense pas qu'elle soit milliardaire.
Elle dit, je ne dois rien. Au nom de quoi je devrais devoir quelque chose à la France, je ne dois rien à la France, etc. Moi, tous les jours, quand je me lève et que je sais que j'ai un bon boulot, je viens ici, etc., je remercie la France de m'avoir donné cette éducation et de pouvoir.
Moi, je ne le fais pas, vous voyez, je remercie la France d'être en vie.
Je remercie en France d'être ici.
Non, mais vous êtes un peu spécial, pardon.
Oui, totalement. Mais je trouve qu'il y a tellement de gens extraordinaires qui représentent la francophonie. Pourquoi le président de la République a choisi personnellement cette personne qui, elle a le droit de ne pas aimer la France? Mais on peut peut-être choisir quelqu'un qui aime la France.
Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une petite erreur de communication, oui. Benjamin Muller.
Le dernier argument est peut-être le meilleur, parce que tout le reste, elle a le droit de critiquer la France, elle a le droit d'aller vivre en Belgique. Je ne suis pas sûr que l'histoire des impôts, à ce niveau de rémunération, il faudrait voir avec les spécialistes.
Alors, si je t'explique pourquoi, je vais donner un élément. Elle a dit qu'elle allait en Belgique, notamment parce que, comme l'a rappelé Rémi, la Belgique était plus en face avec son passé colonial. Elle n'a pas été beaucoup se balader en Belgique, parce qu'il y a des statues de Léopold II partout en Belgique, qui a été un boucher au Congo, et donc ça ne la gêne pas trop. Simplement, c'est pas
son pays. Léopold II était le roi des Belges.
Voilà, oui. Léopold II était roi des Belges, et le Congo était sa propriété personnelle, et il y a massacré des gens. Donc, moi, je veux bien que la Belgique ait mieux vécu son passé colonial, je ne suis pas certain. Je pense que l'argument fiscal était le bon.
Mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres ambassadeurs possibles.
C'est peut-être le truc qui en ressort, c'est qu'une fois encore, donc elle a le droit de critiquer la France, elle a le droit d'aller en Belgique, elle a le droit de dire ce qu'elle veut. Du point de vue d'Emmanuel Macron, on pouvait peut-être trouver quelque chose d'un peu. Après, Isolt est comme une grande artiste que je vous encourage
à
découvrir.
Elle chante en français.
Elle chante merveilleusement bien.
Chanter, est-ce qu'on peut dire chanter?
Oh, si, ah, oui, c'est sublime.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle chante?
Je ne connais pas non plus,
malheureusement.
Moi, je l'ai vu sur scène.
Ça a l'air super.
Oui.
Mais on ne comprend pas pourquoi le président, qui est quand même un type très intelligent, parfois, il a ces trucs-là. Quoi. Voilà,
D'abord, je pense qu'il prend des décisions une fois qu'on lui fournit un certain nombre de notes et qu'à partir de ces notes, il prend des décisions sans peut-être avoir le contexte, on ne sait rien.
Le contexte...
Non, mais Thierry Mont, vous êtes d'accord avec ce choix? Il aurait peut-être pu...
Non, je pense qu'il aurait dû prendre quelqu'un d'autre.
Il y a plein d'autres artistes, talentueux.
C'était pas Leïla Slimani qui a été ambassadrice de la francophonie.
Et là, ça avait... C'est un autre niveau, quand même.
Ça avait de la gueule. Et surtout, quand elle parle de la francophonie, on sentait que... Je ne dis pas que ce n'est pas le cas d'Isolt, mais on sentait que Leïla Slimani, c'est vraiment l'un des combats de sa vie qu'elle porte avec fierté, la langue française. C'est vrai que ça avait de la gueule et c'est important quand même. Alors je suis pas sûr que ce soit elle qui gère les énormes budgets, on disait tout à l'heure gros budget, la francophonie, mais ambassadrice effectivement quand même.
Ce qui est gênant, c'est le fait qu'elle n'aime pas la France et qu'être ambassadrice de la francophonie quand on n'aime pas la France, c'est un peu compliqué.
Elle a dit oui.
Ah bah oui,
Thierry, on peut critiquer la France sans pour autant, il faut arrêter de dire tout le temps on n'aime pas la France.
Ah non, elle n'aime pas la France.
Trouvez-moi une phrase où.
Ah bah elle le dit,
elle le dit. Elle ne doit rien.
Oui, ça veut pas dire je n'aime pas. C'est comme Péricault, les gars, j'ai entendu la semaine dernière, dès qu'on critiquait, il disait vous n'aimez pas la France. Non, on peut critiquer la France sans pour autant dire qu'on n'aime pas la France.
On n'aime pas Péricault, les gars.
La critiquer, se barrer.
Mais ensuite, il n'est pas ambassadeur de la francophonie. Parce que là, c'est Emmanuel Macron, en fait, personne n'a vérifié. Moi, c'est ça qui me tue. En fait, c'est-à-dire qu'il y a juste un moment. Admettons, il adore Isolt et il dit ce serait bien que. Dans ces cas-là, tu cherches un peu et tu dis président, là, on est peut-être sur un petit os. C'est-à-dire que là, on a peut-être un petit souci.
C'est comme Jean-Luc Lahaye, ambassadeur de l'UNESCO, là, c'est une mauvaise idée.
Tu dis président, voilà, personne ne sait qu'on a pensé à elle, on va peut-être faire un autre choix, elle ne le saura jamais parce que il y a certaines déclarations qui sont touchy et c'est tout. Et en fait, tu t'évites un problème et un débat dans Estelle Midi, quoi.
C'est ça. Et après, on manquerait de sujet.
Oui, c'est pas faux, mais enfin là, c'est une petite erreur de com.
Et puis la question fiscale, je suis désolé. En plus, la question fiscale, on peut dire le truc, parce que le côté, elle commence à gagner de l'argent, elle part en Belgique. On sait très bien que les fortunes françaises vont en Belgique. Voilà, on le dénonce tout le temps ici.
Il n'y a pas que des Français qui vont en Belgique pour la fortune. Moi, j'ai des amis qui vivent en Belgique, qui sont français, ils ne sont pas milliardaires.
Mais quand Gérard Depardieu, qui est quand même autre chose comme artiste qu'Isolt, est parti en Belgique pour des raisons fiscales, on a tous dit, il est parti en Belgique pour des raisons fiscales. Bon.
L'enquête du jour.
Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet national financier, notamment pour détournement de fonds publics, après la publication d'articles selon lesquels l'ex-épouse d'Éric Ciotti aurait cumulé plusieurs emplois à l'Assemblée, à Nice et au département. Dans son édition de la semaine dernière, c'est le Canard enchaîné qui avait affirmé que l'ex-épouse du candidat à la présidence des Républicains, Caroline Magne, avait cumulé divers emplois auprès du député ou de certains de ses alliés politiques.
Et ça tombe pile poil pour les adversaires d'Éric Ciotti à la présidence des LR. Mais c'est dingue.
C'est une fillonnade.
La vie est bien faite.
C'est une fillonnade.
C'est joli. Oui.
C'est-à-dire que je pense que ça tombe pile poil au moment où, effectivement, hier soir, il y avait un débat entre les différents candidats à la présidence des Républicains. Alors après, le problème, c'est qu'effectivement, alors, la défense, en plus, elle commence à être... on sent qu'il commence déjà à s'empêtrer dans la défense en disant « Oui, mais tout le travail cumulé ne représentait pas plus que de 44 heures par semaine. Elle a aussi eu un emploi au diocèse local. »
C'est beaucoup, 44 heures par semaine.
C'est beaucoup.
Ah oui.
Elle a aussi eu, en plus de ce que tu as dit, un emploi au diocèse. Enfin, voilà, je pense que on ne peut pas ériger en vertu le comportement des hommes politiques tel que le rêvaient Robespierre et Saint-Just. Un peu d'exemplarité, quand même, ne gâcherait pas l'ensemble du tableau. Je pense que nos concitoyens seraient sensibles à ça. Je pense qu'il y a un problème.
Après, il y a un petit côté vieille politique parce qu'on a l'impression que voilà, ça date et que maintenant les mœurs ont changé finalement, mais qu'il y a quelques années, ils étaient tous là-dedans. Quoi.
C'est ça, en lisant le détail, j'ai l'impression, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste du tout du truc, on se dit qu'ils vont s'en sortir. Parce que t'as l'impression quand même qu'ils ont flirté avec la légalité, ouais, mais que en se défendant bien. Mais juste, oui, tu te dis, c'est des trucs qui auraient pu exister, quoi. En plus, là, il est candidat quand même pour prendre la tête des Républicains. Alors, pas de bol pour lui, hein, ça tombe le jour du débat. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé, le débat est sur LCI, passionnant. Je déconne. Non, c'est un peu l'enfer au niveau de la droite, je trouve. Et donc, ça tombe quand même mal, même, je dirais, pour le débat démocratique tout court. C'est-à-dire qu'on a besoin, je pense, quand même, à un moment ou à un autre, que la droite redevienne forte, que la gauche redevienne forte.
Ah, oui.
La gauche, c'est quand même très compliqué pour des raisons différentes.
Et si la gauche n'existe plus, la droite n'existe plus. La droite
de se remettre timidement, difficilement. Et c'est quand même lui, je crois, selon le sondage, qui est plutôt bien placé. Et bon, là, il se fait tacler au niveau de la carotide. C'est compliqué pour l'ensemble.
Les électeurs, c'est les. Ceux qui sont militants et adhérents.
Fillon
et
avait été très soutenu jusqu'au bout par les militants.
Oui, mais le problème, c'est qu'il n'est pas juste président des LR. Après, il va reprendre le parti.
Alors,
c'est là que
ça sera compliqué.
Après, il y aura d'autres élections.
Je suis d'accord avec vous.
Ouais, donc, il va falloir qu'il séduise plus large que LR. Enfin, c'est quand même... c'est encore une tâche dans la vie politique française pour le coup. Fred Hermel, on sait qu'il y a beaucoup d'abstention dans ce pays et on se dit non mais ça va pas arranger les choses.
Ça n'aide pas. Et c'est vrai que... Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut l'émergence d'une droite républicaine classique. Enfin voilà, il y a une place dans ce pays. La France est majoritairement à droite aujourd'hui, et dans un pays majoritairement à droite, il n'y a plus de républicains puissants. C'est-à-dire, il n'y a plus un gros parti de droite et du centre, voilà, puissant. Et c'est vrai que Ciotti, c'est pas n'importe qui. Je vous rappelle qu'il était arrivé en tête au premier tour de la primaire devant Valérie Pécresse, qui ensuite avait été élue au deuxième tour pour représenter ce courant politique
avec l'élection
avec Lucie Conseil. Donc voilà, Ciotti. Alors la question qu'on peut se poser, c'est toujours voir par rapport au panorama de la droite. Finalement, si Ciotti n'est pas élu à cause de cette histoire, c'est toujours aussi bon pour Marine Le Pen aussi, parce qu'il a un peu un concurrent sur ce terrain-là. Quoi.
Et le problème, c'est comment reconstruire la droite. Là, on parle des Républicains, sur les cendres de ce qui s'est passé avec les affaires Sarkozy, avec les affaires, évidemment, François Fillon. Aujourd'hui, on a Éric Ciotti. Là, il y a Claude Guéant qui vient d'être, ça vient de tomber, le tribunal correctionnel de Nanterre, donc a condamné Claude Guéant à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 assorti d'une sursis probatoire pour avoir délibérément minoré les frais de sa campagne législative de 2012. Donc, il y a les cendres de toutes ces affaires. Et aujourd'hui, c'est pas avéré, on va voir. Mais celui qui prétend prendre la tête des Républicains, on repart sur les mêmes bases.
C'est ça.
Enfin, sur de vieilles affaires. Et ça, c'est problématique quand on veut reconstruire une droite.
On va terminer, Rémi, avec le record du jour.
Oui, ça vient de tomber également. C'est une étude qui nous le dit. La rémunération des patrons du CAC 40 a atteint des sommets l'an passé. C'est ce que nous indique cette étude. Alors, c'est lié évidemment à la reprise Covid, mais dans le contexte d'inflation, difficultés aujourd'hui pour beaucoup de Français à s'en sortir, c'est vrai que c'est...
Non, mais c'est l'exemple du patron de
parler également. Ouais.
C'est-à-dire, pendant la crise du Covid, pendant le confinement, c'est quand même vrai que, avec toute la maladresse qui était la sienne, il s'est mal défendu, mais c'est quand même vrai que pendant le Covid, il dit « Ok, je baisse ma rémunération de, je sais plus, tant de pourcents. » Fin du Covid, il remet sa rémunération au même niveau. Bon, on se met à sa place, après tout, je ne sais pas ce qui est choquant. Mais dans les faits, il s'augmente de 50% si on compare une année sur l'autre. Alors après, vient ça en fin d'émission, alors que tout à l'heure, on s'engueulait sur l'assurance chômage, où là, on vient pour pinailler sur des microscopiques sommes pour des gens qui galèrent. Il y a quand même deux poids, deux mesures.
Oui, mais là, c'est les entreprises privées.
J'ai bien conscience du truc. Mais je veux juste dire que.
Et puis, c'est pas du cash, en fait, parce que souvent, la rémunération.
Des dividendes.
C'est des dividendes. Non, mais c'est des actions.
Là, on parle
des
rémunérations, là.
Les salaires. Aussi en partie avec des actions d'entreprise.
Là, c'est, là, c'est
les rémunérations, oui. Rémunération, pardon, le taux d'impôt pour ces rémunérations-là, oui, il est de 45%.
Non, évidemment, évidemment.
Donc, à un moment, on peut aussi, peut-être, si je me fais l'avocat du diable, mais se réjouir qu'il y ait des sociétés françaises qui soient exactement en très bonne mais santé, ouais, parce que de toute façon, bah, tant mieux pour les patrons. Je veux dire, ils ne retirent rien aux gens.
C'est la théorie du ruissellement.
C'est ce que j'allais dire. Non, 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 non. C'est pas la théorie du ruissellement. Ah non, 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 non. Je suis désolé, Benjamin. C'est pas la théorie du ruissellement. C'est pas la théorie de. L'important, c'est que ces gens payent leurs impôts en France. Point. C'est tout.
Voilà.
Et la tranche maximum est à 45. Si un jour il y a un gouvernement plus à gauche, ce sera peut-être 55 ou 40 ou 50.
Et t'as la contribution sociale pour les hauts revenus.
Ce qui est important, c'est que ces gens-là, qui sont à la tête d'entreprises stratégiques françaises qui fonctionnent, payent leurs impôts.
Et les dividendes, c'est pas 45% dividendes. Ou alors j'ai dit une bêtise.
30%,
c'est 30%. Les dividendes, c'est la 30%. C'est pour
et
ça que...
après, vous avez aussi beaucoup de ces patrons qui investissent dans des associations notamment. Alors tout le monde dit c'est pour défiscaliser, peut-être.
Ou dans
mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations qui sont dans le domaine du médical et qui vivent grâce à ces dons. D'accord. Et s'il n'y avait pas ces dons-là, il n'y aurait pas ces associations.
Non, mais ça, c'est une chose. En revanche, que les dividendes soient peu taxés, 33%, c'est peu taxé quand
30,
on parle. 30%. Ah, c'est pas énormément taxé sur des millions d'euros.
C'est la flat tax.
Sur la flat tax.
Mais ça permettait aussi à des salariés, des petits patrons,
d'avoir des petits pourcentages. Allô,
qu'on m'appelle au téléphone, de prendre effectivement, d'être moins taxé. On se retrouve demain sur RMC, RMC Story, à partir de midi 15h, dans Estelle Midi. Passez tous une excellente journée. Salut.
RMC, Estelle Midi.